Sébastien, bonsoir.
Bonsoir à tous. Leur nom est à chaque fois cité lorsqu'on parle des attentats du 13 novembre. Les frères Klein, partis en Syrie en 2015. Fabien a été tué hier à Baghouz. Le cadet Jean-Michel, gravement blessé à ses côtés. Une frappe de drone américain avec les services de renseignement français. Le récit avec Nathalie Hernandez. Le parcours des djihadistes. Le père d'une victime du Bataclan aurait préféré qu'il soit jugé. Vous l'entendrez. La reprise d'Ascoval tourne au fiasco. Le repreneur de la Syrie n'a pas l'argent annoncé. Le plan validé en décembre doit être rediscuté. Un revers pour Bruno Le Maire et Xavier Bertrand. Vous entendrez le patron des Hauts-de-France. Au sommaire également ce soir, Matignon qui trouve le rapport du Sénat sur Benalla trop politique. Le pape qui promet du concret aux victimes de pédophilie dans l'église. Nous serons à Rome. Le surf et le skate parmi les disciplines invitées au JO de Paris 2024. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, adieu, mouches, moustiques, abeilles, fourmis, papillons, scarabées, coccinelles. Les insectes sont en phase d'extinction très rapide et trop rapide même. Certes, les insectes en général sont moches, méchants, ils piquent et ils grattent. Sauf que sans eux, c'est nous qui disparaissons aussi. Et on en parle au 01 45 24 7000.
Il était la voix française du groupe État islamique, celui qu'on entend dans la revendication des attentats du 13 novembre à Paris. Fabien Klein a donc été tué en Syrie. C'est vous qui révélez cette information. Bonsoir Nathalie Hernandez.
Bonsoir.
Il a été abattu hier, son frère est grièvement blessé.
Oui, les deux frères s'étaient bien retranchés à Baghouz, dans le dernier bastion de l'organisation État islamique. Et après 4 jours de surveillance, la coalition a décidé de frapper hier après-midi à l'aide d'un drone. Jusque-là, les Klein avaient pour habitude de se déplacés avec femmes et enfants. Les services français étaient convaincus depuis un bon moment que les deux djihadistes étaient bien vivants et qu'ils étaient toujours en Syrie. Fabien Klein s'était d'ailleurs manifesté en décembre dernier. Il avait enregistré un message audio, nous révèle l'agrégé d'histoire et analyste historique au blog, connu sous ce nom sur Twitter. Ce message intitulé « Est-ce que tu réalises ?» avait été diffusé sur Al Bayan, la radio du groupe terroriste. Quelques mois auparavant, 2 chants religieux des Nachides avaient été, eux, publiés avec la voix de son frère Jean-Michel. Le gouvernement français attend maintenant une validation de leur identité grâce à leur ADN notamment. À Baghouz, il resterait encore une poignée de combattants et des civils, principalement des femmes et des enfants que les forces démocratiques syriennes cherchent à évacuer.
Merci Nathalie Hernandez et bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
On revient avec vous sur le parcours des frères Klein. Ils ont grandi dans l'Orne.
Oui, dans une famille chrétienne, pratiquante. À la fin des années 90, les frères Klein se convertissent à l'islam et vont s'installer à Toulouse en famille où on les appelle le clan des Belphégors parce que les femmes portent la burqa. Fabien Klein a aussi séjourné à Bruxelles, en Égypte. De retour en France, il rejoint avec son frère le groupe de l'Artigat en Ariège, un des noyaux historiques du djihadisme français avec les frères Mera et Sabri Aïssid. Une filière qui envoie à l'époque des jeunes combattre les Américains en Irak. En 2009, Fabien Klein est condamné à 5 ans de prison. Il en purge 3. Et bien qu'en bonne place dans les radars du renseignement intérieur, les frères Klein, avec femmes et enfants, partent en Syrie en mars 2015 pour Fabien, après avoir acheté du matériel audio professionnel qui lui a sans doute servi à devenir l'une des voix officielles du groupe État islamique. Il aurait aussi continué d'endoctriner et de recruter à distance. La revendication du 13 novembre laisse penser qu'il était peut-être au courant des préparatifs. Il évoque une attaque dans le 18e arrondissement qui n'a pas eu lieu, mais il ne passait pas pour un des commanditaires.
Merci Sarah Guibaudot. La mort du djihadiste français le plus recherché, est-ce une bonne nouvelle pour les familles des victimes du 13 novembre? Voici le sentiment de Georges Saline, qui a perdu sa fille de 28 ans, Lola, au Bataclan.
Je vous avoue que, au point de vue personnel et émotionnel, rien de ce qui peut arriver à ces gens ne me touche profondément. Ils méritaient un châtiment exemplaire. Hein. Moi, je préfère que le châtiment exemplaire il soit prononcé par la justice plutôt que le résultat d'une action militaire. Pour l'histoire, pour la mémoire, pour que la clarté soit faite, pour qu'on en tire toutes les leçons. Puisqu'il semble qu'un des deux frères ait survécu à cette attaque, j'espère qu'il pourra être capturé et remis à la justice, et interrogé, et jugé, et puni.
Georges Saline, le père d'une victime du Bataclan, joint par Julie Pietri. Fabien Klein tué à Baghouz en Syrie, son frère Jean-Michel grièvement blessé à ses côtés. Tous les détails sont à retrouver sur le site internet de France Inter, franceinter.fr.
Et l'autre information de la journée, Sébastien, c'est ce revers pour le ministre Bruno Le Maire.
Qui parlait en décembre d'une bonne nouvelle pour l'industrie et l'emploi et qui subit 2 mois après un désaveu complet dans le dossier Ascoval. La Syrie de Saint-Saulve dans le Nord et ses 281 salariés placés en liquidation judiciaire financière et qui devait être repris par Altifort. Le plan de reprise était validé en décembre. Le groupe franco-belge devait apporter 35 millions d'euros sur les 152 du plan de financement. Le reste partagé entre l'État, les collectivités locales et les banques. Sauf que patatras ce midi. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Altifort fait savoir qu'il n'a pas l'argent qu'il disait avoir. Bruno Le Maire, les salariés, tout le monde a été berné.
Oui, le repreneur Altifort a trompé tout le monde. On nous a menti, dit-on à Bercy. Maître Guilhem Brémond, l'avocat d'Ascoval, demande lui des explications davantage mesurées. Il est tout de même estomaqué.
Moi, je ne sais pas si le repreneur a trompé tout le monde. Ce que je sais, c'est qu'on avait trouvé un repreneur dont le projet était cohérent, et d'ailleurs, les derniers chiffres le montrent. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est engagé et comment peut-il aujourd'hui nous dire qu'il n'a pas cet argent? Pour moi, c'est incompréhensible. Depuis 25 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu une situation pareille.
Côté salarié, vous l'imaginez, l'annonce est brutale. 2 mois seulement, hein, vous l'avez dit. Mmh. Après la validation du projet de reprise, comment peut-on en arriver là? S'indigne Bruno Kobzinski, délégué syndical CFDT à l'usine de Saint-Saulve.
Si encore il n'y avait pas eu tous ces cabinets d'experts, mais je rappelle quand même que le gouvernement, Bruno Le Maire en tête, a validé le projet en disant le projet il est costaud et on y va et on va sauver l'usine, après avoir pris les conseils des cabinets d'expertise. C'est pas possible. Vous avez merdé où? Là, on joue avec direct et indirect 1000 familles du Valenciennois. C'est une catastrophe pour le Valenciennois ce qui va se passer.
Ce représentant des salariés qui a l'impression d'avoir lui-même ce soir berné ses collègues en croyant à ce projet de reprise et en leur demandant d'y croire. De quoi j'ai l'air maintenant, dit-il. Pour lui, comme pour les autres, le retour à la maison ce soir et la nuit derrière s'annonce très compliqué.
On l'imagine, merci Maxime Debs. Alors Altifort n'a donc pas un sou de ce qu'il avait promis, mais il ne jette pas l'éponge et dit ce soir qu'il cherche une solution. C'est néanmoins un désaveu pour Bruno Le Maire, c'en est un aussi pour le patron de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, même s'il veut encore y croire. Au micro de Cécile Manoa de France Bleu Nord.
On a connu tellement de difficultés dans ce dossier. Les salariés sont passés par tant d'épreuves que moi, j'ai pas envie de me dire que c'est fini. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit Altifort est capable de réunir, d'ici la semaine prochaine, les sommes qui ont été promises, les sommes qu'on leur a aussi promis, notamment le groupe espagnol qui devait leur amener 25 millions. Si c'est le cas, ça peut continuer. Soit nous trouvons, dans les jours qui viennent, quelqu'un qui vient en soutien, en support d'Altifort, soit nous trouvons quelqu'un qui vient en remplacement d'Altifort. Et c'est pas terminé encore. On repart pas d'une page blanche. On sait exactement ce que l'État, les collectivités locales sont prêts à mettre sur la table. On a maintenant des nouveaux clients qui nous amènent le potentiel. Ce qu'on a fait pendant des mois et des mois, ça n'a pas servi à rien. Donc il est vrai qu'on a pris contact avec ceux qui, à un moment ou un autre, avaient été intéressés par la reprise d'Ascoval. On n'a pas fait tout ça pour au dernier moment se dire, bah non, ça marche plus.
Et décidément, ce n'est pas la journée de Bruno Le Maire. Les syndicats de Ford annoncent que le constructeur américain a refusé la nouvelle offre de rachat de son usine de Blanquefort par le groupe franco-belge Punch. 850 emplois là sont menacés.
C'est classique quand il faut éteindre incendie.
C'est Matignon qui monte au front pour l'Élysée et c'est ce qu'a fait Édouard Philippe ce matin après le très lourd rapport du Sénat sur l'affaire Benalla qui accable la présidence de la République. Le Premier ministre n'est pas étonné, le Sénat est à majorité de droite, mais il regrette un rapport très politique.
La commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. J'observe également qu'un certain nombre de recommandations concernent des fonctionnaires qui travaillent auprès du président de la République, et notamment le secrétaire général de l'Élysée. J'ai trouvé ces recommandations ou ces formulations incompréhensibles et souvent injustes, car je peux témoigner de ce que le secrétaire général de l'Élysée, notamment, est un grand serviteur de l'État. C'est la raison pour laquelle je ne saisis pas très bien la portée de ces remarques. Dans ces temps compliqués, il appartient que chacun respecte les prérogatives qui lui sont réservées par la Constitution.
La justice est saisie, dit aussi Édouard Philippe, et il faut respecter son indépendance. Réponse par communiqué cet après-midi du président et des 2 co-rapporteurs de la commission d'enquête sénatoriale. Le principe de séparation des pouvoirs a été scrupuleusement respecté. La politique encore est Agnès Thil qui reste pour l'instant dans les rangs de La République En Marche. La députée de l'Oise a été entendue par la commission des conflits de la majorité après ses propos anti-PMA et elle n'a reçu qu'une mise en garde, Karine Bécard, alors que plusieurs de ses collègues demandaient son exclusion.
Oui, et le premier à réclamer cette exclusion, c'était Guillaume Chiche, un ancien jeune socialiste, désormais député macroniste, qui a fait savoir cet après-midi qu'il avait pris acte avec amertume de la décision du parti. « Je reste convaincu, a-t-il poursuivi sur les réseaux sociaux, que tes déclarations méritaient l'exclusion. La réaction d'Agnès Thil ne s'est pas fait attendre, elle pourrait envisager de porter plainte contre lui. » Comme vous le voyez, la tension sur ce dossier est loin d'être retombée. Beaucoup au sein de la majorité estime que la commission des conflits du mouvement La République En Marche, qui avait pour la première fois à traiter d'un tel cas, eh bien, a probablement eu peur et n'a pas osé véritablement trancher. En réalité, il faut aussi expliquer que l'Élysée ne veut surtout pas de polémique sur la PMA, en tout cas pas maintenant, pas trois mois avant les élections européennes, quand Emmanuel Macron tente depuis plusieurs semaines d'attirer politiquement une partie de l'électorat de Laurent Wauquiez. Bref, en ne condamnant pas Agnès Thil, le parti présidentiel a simplement réussi à éviter un nouveau grand débat sur la PMA.
De nouvelles inscriptions antisémites découvertes ce matin à Paris dans le 14e arrondissement sur des façades d'immeubles et du mobilier urbain, dont une croix gammée à l'envers. Des tags aussi à Artigues près Bordeaux sur des panneaux de signalisation et là aussi sur un abribus. Emmanuel Macron a promis hier soir au dîner du CRIF de nouvelles lignes rouges contre la haine anti-juive sur Internet. Le projet de loi prévoira notamment des amendes pour les plateformes qui ne suppriment pas les propos racistes et antisémites publiés en ligne. Lui a copieusement insulté Alain Finkielkraut samedi à Paris. Le père de famille de 36 ans, entendu pendant deux jours à Mulhouse. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Sa garde à vue a été levée. Il sera jugé à Paris dans trois mois.
Oui, et ce sera le 22 mai prochain précisément. Il risque un an de prison et 45 000 euros d'amende pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Durant ses 48 heures de garde à vue, ce Mulhousien, bénévole au sein d'une association pro-Palestine, a reconnu le caractère injurieux des 5-6 expressions qui lui sont reprochées, dont celle de sale race, selon son avocat, mais rien à voir pour André Chamy avec de l'antisémitisme, il le dit au micro de Patrick Janton.
Pour l'instant, il est encore abasourdi par ce qui se passe, parce qu'il a l'impression de vivre un cauchemar. Lui, il n'a jamais voulu commettre une quelconque infraction, et encore moins ce qui pourrait être qualifié de propos antisémites. Sale race, vous savez, alors je vous dis, vous allez kiffer votre race après ce repas, qu'est-ce que vous allez dire? C'est une phrase que tout le monde utilise maintenant, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je reproche votre religion, je la connais pas. Je connais pas votre confession, je connais pas vos croyances, je connais pas vos convictions. Mais ça, c'est un terme qui est devenu très courant. C'est malheureux, c'est pas forcément le terme de tout le monde, mais il est utilisé.
Mais dans les expressions que l'on entend distinctement dans la vidéo diffusée depuis le week-end dernier, il y a aussi « espèce de sioniste de merde » lancé à Alain Finkielkraut. Entendu par la police, le philosophe a confirmé qu'il ne souhaitait pas porter plainte.
Emmanuel Leclerc, le stationnement résidentiel de nouveau gratuit demain à Paris, comme aujourd'hui, à cause de l'épisode de pollution aux particules fines. La vitesse sera réduite de 20 km/h également.
Il est 19h13 sur France Inter. Le pape promet justice aux victimes d'actes pédophiles.
L'Église entendra le cri des enfants, dit François en ouvrant la conférence consacrée aux abus sexuels au Vatican. Les victimes et les fidèles attendent, selon lui, des condamnations et des mesures concrètes et efficaces. Eh bien, il y en a du concret dès le début de cette réunion inédite qui va durer trois jours et demi. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir.
Le pape Mathilde lance 21 pistes de travail.
Oui, c'est une entrée en matière sans détour de la part du pape. En plus de ce discours dont vous avez parlé, il a distribué une liste de 21 points de réflexion. Parmi ces points, des réformes de fond sont proposées, des formations à apporter aux jeunes prêtres pour consolider leur maturité, le recours à des experts laïcs dans les enquêtes, et puis l'écoute des victimes qui pourraient se faire via des commissions indépendantes de l'Église et dans tous les pays. Ces 21 points sont une base. Les évêques ont jusqu'à dimanche pour les affiner.
Autre temps fort de cette première journée de conférence, les témoignages de victimes diffusés au début de la réunion.
Oui, effectivement, des témoignages de victimes poignants. Il y en a eu 5 en tout. Une femme africaine qui a raconté comment un prêtre l'a forcée à avoir des rapports pendant des années, l'a contrainte à avorter 3 fois, mais elle était dépendante financièrement de lui. Une victime chilienne qui demande à l'Église d'éradiquer le cancer qui la ronge. Ces témoignages ont été entendus par tous les évêques réunis à Rome, dont Monseigneur Pontier, le président de la Conférence des évêques de France.
J'ai ressenti tout ce que j'ai ressenti auparavant en ayant écouté d'autres victimes sur Marseille ou sur Paris, chose qui nous était d'ailleurs demandée par le pape François. Je me suis dit, c'est pour eux que tu es là. c'est pour eux que tu es là. Voilà, j'ai ressenti une fois de plus la profondeur de la blessure et puis ressenti comment ce sommet était très utile pour que nous prenions encore plus conscience de cette réalité et que nous essayions de voir les modifications qu'il nous faut faire en divers domaines.
Le pape François a voulu placer au centre de ce sommet les victimes. Il était visiblement accablé par ces témoignages, nous a rapporté un témoin de la scène.
Et suite de la conférence demain, merci Mathilde Imberti en direct de Rome. Juan Guaido est en route pour la frontière colombienne. Le président autoproclamé du Venezuela compte conduire le convoi d'aide humanitaire américaine qui attend d'entrer dans le pays, mais que bloque l'armée, toujours fidèle à Nicolas Maduro. Maduro qui annonce ce soir la fermeture totale de la frontière avec le Brésil. Pas une loi, mais un pacte pour en finir avec le plastique dans nos emballages. C'est ce qu'a signé la secrétaire d'État Brune Poirson avec les géants de la distribution et les industries industriels volontaires. Certains sont venus présenter ce matin, Célia Kiré, leurs alternatives au plastique.
Vous vous êtes déjà peut-être demandé pourquoi les fruits ou les légumes bio sont emballés dans du plastique. C'est pour une meilleure traçabilité. Or, c'est une hérésie pour certains consommateurs. Bertrand Zwiderski, l'un des responsables de Carrefour, a donc décidé d'en finir avec ses sachets. Les bananes bio ou les concombres seront juste entourés d'une bande de papier indiquant leur origine.
Le concombre emballé dans du plastique, on supprime le plastique, 6 tonnes de plastique en moins. Suppression du sac plastique autour de nos bananes bioéquitables, 25 tonnes de plastique en moins. Nos clients peuvent venir avec leur propre emballage et ainsi plus avoir d'emballage délivré par le magasin.
Et pour le groupe Franprix, Jean-Paul Mauchet partage le même objectif, zéro plastique. Il ne vend plus de couverts ou d'assiettes jetables, mais il admet que ce sera plus difficile pour certains produits.
Par exemple, nous sommes en train de remplacer les barquettes polystyrène de nos viandes fraîches et de les enlever carrément au profit d'un plastique transparent, beaucoup plus facile à recycler sur les chaînes de tri. Mais ça peut être par exemple la mise en place du vrac. On a des céréales, mais on a aussi du shampoing. Et là, c'est zéro plastique.
Ce pacte sur les emballages n'est pas contraignant, mais Pascal Canfin du WWF le soutient. Il surveillera les entreprises.
Tous les engagements de ce pacte vont au-delà des obligations légales qui pèsent sur les entreprises. Deuxièmement, il y a un dispositif de suivi pour s'assurer que les engagements qui sont pris aujourd'hui sont effectivement tenus.
D'ailleurs, la secrétaire d'État Brune Poirson prévient, si les entreprises ne respectent pas leurs engagements, le gouvernement en passera par la loi et des sanctions.
Et toujours à propos de nos caddies et de nos assiettes, le seuil de revente à perte relevé de 10% n'a eu aucun impact sur les prix dans la grande distribution. C'est un cabinet spécialisé qui fait référence qu'il dit. Il a scruté les étiquettes des produits de grande consommation en supermarché depuis que la mesure décidée par la loi alimentation a été mise en place le 1er février. Des disciplines plus urbaines, plus artistiques, plus sport de nature. Paris propose breakdance, escalade, surf et skate au menu des JO de 2024. 4 sports invités, les 3 derniers le sont déjà à Tokyo en 2020. Une sélection qui doit encore être validée par le Comité international olympique. Ce sera en décembre 2020. Mais un pari qui enthousiasme déjà les intéressés, notamment surfeuses et skateuses Cécilia Arbonin.
Leurs terrains à elles ne sont pas conventionnels. Les sportives choisies par le comité d'organisation de Paris 2024 pour incarner et capter la jeunesse sont hors stade et surtout hors cadre. Justine Dupont, 28 ans, 3 fois championne du monde en grosse vague, stand-up paddle et longboard.
Le surf a totalement sa place aux Jeux Olympiques, c'est un sport... Ouais, comme ils disent, spectacle. Et puis oui, tout le mode de vie qu'il y a autour. Il faut essayer d'être futuriste. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, des sports comme ça, des sports de sensations, d'émotions.
Le spot de Charlotte Him, 27 ans, c'est la rue. Elle est championne de France Street en 2017 et 2018. Elle fait des pirouettes sur un skateboard depuis qu'elle est toute petite.
Tu fais ce que tu veux si tu as envie de pratiquer une activité sportive en dehors des cadres. Et c'est ça qui est magnifique avec le skate, c'est que le soir à 19h, il fait beau dans Paris, tu as envie de faire, je sais pas, du badminton. Le gymnase, il est fermé, il n'y a pas de créneau. Tu fais comment? Bah, tu fais pas. Alors que tu as envie de faire du skate ou tu as envie de faire je sais pas, de la course ou du breakdance, et bien là, tu peux y aller. Tu n'as pas besoin d'installation.
Le point commun entre Justine la blonde et Charlotte la brune, c'est de partager leur passion sur les réseaux sociaux à coups de commentaires sur Twitter ou de photos sur Instagram.
La pétanque et le billard, notamment, sont donc recalés pour
ces jeux. On partage moins la pétanque 2024. Sur Instagram aussi, curieusement.
Je sais pas, peut-être. L'été, en tout cas. Une très belle affiche pour les 10 ans du festival Days Off en juillet à Paris. Les Allemands de Kraftwerk, le chanteur de Radiohead en solo Tom York et l'Américaine Cat Power. Les billets seront en vente à partir de jeudi prochain. Et puis, un autre rendez-vous, cette fois demain. Inter est à Saint-Étienne toute la journée, le 7, 9, le 18, 20. Et Bruno Bruno Duvic qui me charge de vous dire de venir le voir nombreux. Ce sera à partir de 13h évidemment au hall Mazra. Le message est transmis.
Voilà, vous verrez, il est très très beau. Merci beaucoup.
Bruno?
Oui, bien sûr. Ah oui, vous aussi Sébastien, évidemment. Allez, bonne soirée. Nous, on reste ensemble pour le téléphone. Sinon, on va parler des insectes et sous le soleil, tiens.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Sébastien Léas, encore quelques grisailles, mais donc surtout du soleil.
Oui, avec un puissant anticyclone vissé sur le pays, la situation évolue peu depuis plusieurs jours et ces conditions vont même persister jusqu'au milieu de la semaine prochaine au moins. C'est donc un généreux soleil et un ciel quasiment tout bleu qui vont à nouveau dominer demain. On a quelques nuances quand même dans ce temps calme, principalement liées à des problèmes de grisailles. Quelques brouillards et bandes nuages basses seront encore présents au lever du jour, essentiellement sur la moitié nord, notamment entre les régions du nord de la Seine et la Bourgogne. La dissipation de ces grisailles se fera avant la mi-journée. En revanche, en Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, des éclaircies arriveront à se développer, mais les nuages bas seront plus récalcitrants et il faut s'attendre à un ciel parfois bien chargé l'après-midi.
Et sinon, nouvelle hausse des températures demain après-midi en tout cas.
Oui, on a de l'air extrêmement doux qui s'engouffre sur le pays. Les maximales seront parfois dignes d'un début mai et des records sont même possibles demain sur le nord-ouest. Il fera 15 degrés à Abbeville, 17 degrés à Lyon, Paris et Calvi, 18 degrés pour Caen, Morlaix, Aurillac ou encore Poitiers, 20 degrés à Toulouse et à Aix-en-Provence et même 22 degrés à Béziers et Bayonne. Les nuages du nord-est atténueront la douceur avec 13 degrés à Mulhouse et à Metz. En revanche, attention aux petites gelées encore possibles cette nuit et demain matin.
Sébastien Léas de Météo France, merci.